France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Deux personnes sont toujours hospitalisées ce matin après l'attaque devant la mosquée de Bayonne hier après-midi. Ces deux personnes ont été grièvement blessées par un octogénaire qui leur a tiré dessus avant de tenter de mettre le feu à la porte de la mosquée. Interpellé peu après à son domicile, il a reconnu les faits. Il s'agit d'un ancien militaire, ancien candidat frontiste aux élections départementales de 2012. Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National, parle d'un attentat. Elle assure que cet acte est contraire à toutes les valeurs prônées par son parti. Le président de la République, Emmanuel Macron, dénonce une attaque odieuse. Même condamnation de la part du CFCM, le Conseil français du culte musulman. Avec le climat actuel de stigmatisation de l'islam, il ne faut pas s'étonner que cela arrive. Voilà ce que dit son représentant qui appelle les fidèles à une extrême vigilance. Le CFCM, justement, doit faire des annonces ce mardi après avoir rencontré le chef de l'État hier. Ce mardi, par ailleurs, une proposition de loi sur le port du voile en sortie scolaire est examinée au Sénat. L'Union européenne approuve un nouveau report du Brexit au plus tard, au 31 janvier 2020. Le Premier ministre britannique s'attelle maintenant à la crise interne à son pays. Boris Johnson souhaite déclencher des élections générales anticipées. Proposition rejetée hier par les députés au Parlement à Londres, mais il leur soumettra un nouveau texte aujourd'hui. À Bagdad, malgré le couvre-feu instauré cette nuit, les Irakiens ont défilé, faisant entendre leur klaxon et leur colère contre le gouvernement. En un mois, 239 manifestants ont été tués. Ils demandent notamment davantage d'emplois pour les jeunes et moins de corruption dans le pays. Notons enfin que le corps du chef du groupe État islamique a été immergé en mer hier, le Pentagone l'annonce. Une procédure similaire à celle organisée pour Oussama Ben Laden en 2011 au Pakistan. Les Américains ne souhaitent pas de sépulture pour ces deux hommes pour éviter que leur tombe ne devienne un lieu de pèlerinage.
Les éditions Radio France présentent Les Sorcières, un livre de Céline Duchesnay. Comment le mythe de la sorcière a-t-il évolué à travers les âges? Fascinante et attirante pour certains, dangereuse et maléfique pour d'autres. Autrefois crainte et persécutée, aujourd'hui savante et indépendante. Une histoire de femme dont les pouvoirs dérangent. Les sorcières de Céline Duchesnay, un livre illustré coédité par France Culture.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec le réveil culturel. Tous les jours de la semaine, tôt à la radio, de 6h à 6h30. Et quand vous voulez, si vous passez par l'écoute en ligne, en différé donc, ou l'abonnement au podcast. Tous les mardis, c'est l'actualité des expos. Aujourd'hui, art contemporain et Cap sur Avignon, où le festival Viva Villa présente les travaux d'une cinquantaine de chercheurs et d'artistes, plasticiens, musiciens, graphistes, cinéastes, écrivains, historiens de l'art, qui ont tous travaillé autour du thème « La fin des forêts ». Pour nous en parler, la commissaire de l'exposition, Cécile Debray, et une artiste de cette manifestation, Marie Benin. L'exposition est à voir jusqu'au 10 novembre à la collection Lambert à Avignon.
Le réveil culturel. Mardi, expo.
Bonjour Cécile Debray.
Bonjour.
Alors, quand je parle de Viva Villa et de ces artistes qui ont fait une résidence, je parle bien sûr de ces prestigieuses résidences d'artistes.
Les trois grandes résidences artistiques à l'étranger, c'est-à-dire la Villa Médicis à Rome, la Casa de Velázquez à Madrid et la Villa Kujoyama à Kyoto,
au Japon. L'idée, c'est que depuis quelques années, depuis 4 ans, je crois, ces artistes se retrouvent autour d'un projet. Et ensuite, quelque part en France, puisque c'est un festival itinérant, on présente cet cette exposition collective l'année dernière, c'était Marseille. Cette année, c'est Avignon, dans ce lieu à découvrir, très beau lieu, la collection Lambert à Avignon. Et le thème, alors le thème, la fin des forêts, ça vient de vous, Cécile Debré? Ce sont les artistes qui ont voulu travailler sur cette thématique qui effectivement nous intéresse plus que jamais aujourd'hui.
Oui, enfin c'est un thème, disons, qui me semblait pouvoir les rassembler tous. Et en général, ce festival qui consiste à montrer les travaux issus en fait de ces résidences qui sont souvent fermées, qui là sont montrées au public, consiste d'abord en un tour des ateliers et à la suite de cette première prise de contact avec les différents artistes dans les trois lieux, on essaie donc d'élaborer une thématique générale qui permettra de construire un parcours d'exposition avec une certaine forme de, non pas de narration, mais disons, donner un sens ou une promenade poétique à travers ces œuvres. Et donc le thème « La fin des forêts » m'est apparu de manière absolument, je dirais assez évidente en fait, puisque la plupart d'entre eux sont, comme nous tous, inquiets, je dirais, de l'avenir climatique de notre monde et surtout de notre société. Et par ailleurs, les questions de paysage, les questions du rapport à la nature et les questions de notre rapport au passé et à notre culture, mais aussi à notre terre, permettait vraiment de relier l'ensemble des artistes. Et peut-être l'une des artistes qui a exprimé ce thème de manière évidente, c'est sans doute Marie Bonin.
Qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Marie Bonin.
Bonjour.
Travers son travail à partir du livre de Julien Gracq, La fin des forêts.
Ces artistes résidents, d'abord, ce sont des artistes qui candidatent, les places sont chères, comme on dit, et donc ils vont être en résidence pendant un certain moment, ça varie de 3 mois jusqu'à une année, je crois.
Oui.
Mais alors, ces artistes qui viennent d'horizons divers, est-ce que déjà le fait qu'ils soient en résidence travaillent ensemble, en interaction?
Oui, alors absolument, c'est vraiment l'atout d'une résidence artistique, c'est que pour la Villa Médicis et la Casa de Velázquez, ils sont une promotion d'une quinzaine d'artistes. Ils résident pendant un an quasiment ensemble, et donc le lien qui s'effectue entre eux est aussi un lien qui se forme à partir de disciplines diverses. On peut observer, alors c'est pas toujours le cas, mais on observe quand même une sorte de contamination, transdisciplinaire. Et de toute façon, il me semble, mais Marie répondra sans doute mieux que moi, la découverte d'autres artistes et d'autres disciplines est absolument un enrichissement pour chacun d'entre eux.
Comment se présente cette exposition? S'il fallait déambuler avec vous, Cécile Debré, vous êtes conservatrice, on le sait, au musée de l'Orangerie, mais là vous êtes la commissaire de cette exposition, La fin des forêts.
J'ai déterminé 5 grandes thématiques qui permettent d'ordonner un tant soit peu ces travaux qui sont assez divers, voire éclectiques. Et donc on fait une traversée, selon une métaphore à la fois ascendante et une métaphore descendante, puisqu'on entre dans l'exposition avec deux œuvres d'artistes extrêmement reconnus, une œuvre d'Angeleccia qui nous propose sa vision des pins qu'il avait lui-même filmé à la Villa Médicis quand il était pensionnaire en 1982
et qui ont été emportés
abattus par la tempête cette année, d'où sans doute cette sorte de réflexion autour de l'anthropocène. Et chez Angeleccia, ces images qu'il a remontées avec beaucoup d'amitié et de générosité pour le festival Viva Villa offrent une vision à la fois assez mélancolique, très poétique et à la fois teintée d'une forme de lyrisme ascensionnel, puisqu'on est vraiment... on a le regard porté vers ces cimes sur le ciel romain. C'est une très belle œuvre. En parallèle, je montre des photos d'une action qu'avait menée Robert Smithson, célèbre artiste américain du Land Art, qui a fait une action à Rome en 1969 où il a déversé une benne d'asphalte sur le pan d'une colline, faisant là une sorte de coulée presque géologique, mais faussement évidemment géologique, avec un matériau éminemment urbain, et quelque chose de beaucoup plus sombre, plus noir et effectivement plus descendant, puisqu'on a le nez collé à la terre.
Là, c'est la photo, hein, c'est une série de photos.
C'est une série de photographies qui a été choisie par un des pensionnaires de la Villa Médicis, qui est historien d'art, et qui a fait le choix de travailler sur cette action. Et donc, on a deux visions comme ça, l'une assez sombre, l'autre peut-être plus aérienne, plus poétique, et qui me semblait pouvoir, je dirais, un peu projeter une ombre tutélaire sur l'œuvre de ces jeunes artistes qui vont osciller entre des visions parfois second degré, assez drôles, des visions assez noires sur la question de l'anthropocène, de l'effondrement, qui est une thématique qu'ils reprennent à Abi Warburg, d'autres qui vont jouer avec un mélange de références à l'antique ou à la Rome baroque et les questions de recyclage actuelles, et c'est ce que j'ai regroupé autour de du thème de l'anamorphose. D'autres encore, et beaucoup d'ailleurs, ça a été vraiment le cœur de cette exposition, jouent avec la flore, avec des végétaux, et donc j'ai repris l'image de l'herbier pour déployer comme ça des herbiers très divers qui sont soit des herbiers photographiques avec un travail merveilleux de Clément Verger, d'autres qui ont travaillé sur par exemple l'indigo en faisant des teintures, ou une réflexion de design autour du bambou, etc. Voilà, c'est quelques images, mais qui vous donnent l'idée d'un parcours extrêmement foisonnant, d'œuvres de très grande qualité. Ce sont trois résidences d'excellence et qui permettent comme ça à la fois d'interroger une question très actuelle. On n'arrête pas de parler des arbres, du climat, mais également d'un effondrement social ou d'un danger d'effondrement à travers donc une génération d'artistes, et c'est peut-être ça, je ne montre que la promotion de cette année de ces trois résidences. Donc, de facto, de jeunes artistes, c'est finalement une manière de prendre le pouls d'une jeune génération de créateurs qui seront sans doute les grands artistes de demain et qui se saisissent à la fois des techniques, des formes pour
les
cette
grands
question.
Artistes de demain ou les grands intellectuels de demain, parce qu'il y a aussi des écrivains, il y a aussi des penseurs, il y a aussi des historiens de l'art. D'ailleurs, cette exposition magnifique que je vous recommande vivement, hein, si vous n'êtes pas loin d'Avignon ou si vous avez l'occasion d'aller de ce côté-là avant le 10 novembre, à la collection Lambert, cette exposition, donc La fin des forêts, se termine par une réflexion très intéressante d'une historienne de l'art qui, à partir des images de la peinture, se pose la question, mais comment faire entendre ce qu'on entend quand on est dans cette nature?
Oui, c'est Pauline Lafille qui a travaillé sur le grand tableau de Uccello, la bataille de San Romano, et qui s'est posé la question de... Face à un tableau qui montre donc deux armées de chevaliers munis de lances qui
donc scène de bataille
devait produire un fracas énorme de l'entrechoquement des armures des chevaux et des lances, s'est posé la question de la représentation du bruit dans une peinture qui paraît sans cesse silencieuse. Donc c'est un travail très original, c'est un travail d'une très bonne historienne d'art. D'ailleurs là, elle a bénéficié de la bourse et de la reconnaissance de la Villa Berenson en Toscane. Donc c'est vraiment une belle historienne d'art qui a une belle pensée théorique et dont on montre une vidéo. Et donc ça aussi c'est vraiment très propre à ces résidences, c'est que elle, qui en tant qu'historienne d'art a pour outil l'écriture, s'est saisie de la vidéo pour exposer en fait sa réflexion donc à travers une vidéo qui est une œuvre plastique qui montre des détails où elle lit des extraits, elle montre des éléments d'archives, etc. Et donc elle l'utilise de manière très originale final, en fait, l'outil de la vidéo.
Comment concrétiser justement un texte littéraire, une réflexion d'historien de l'art dans une exposition, c'est-à-dire dans une installation? C'est ce que vous faites, Marie Bonin, vous qui êtes une des artistes exposées avec cette cinquantaine de chercheurs et d'artistes pour La fin des forêts. Vous êtes artiste, dessinatrice et graveuse, et pourtant c'est à partir d'un texte que vous avez réfléchi à une approche artistique concernant la nature.
Oui, c'est quelque chose de récurrent dans mon travail. En fait, j'ai fait des études littéraires avant de faire des études artistiques.
Et voilà qui explique ouais, ça doit... peut-être pas tout, mais une partie,
une
effectivement,
partie
de cette approche. Ouais.
Finalement, un peu malgré moi, dans chaque projet que je fais, il y a toujours la littérature, le texte qui s'immisce. Et j'ai aussi fait finalement des études en images imprimées, où j'ai appris des techniques d'impression manuelles, comme la sérigraphie, la gravure, mais aussi numérique. Et finalement, c'est pas que de l'image imprimée, c'est aussi, ça a forcément un lien avec le texte imprimé et avec l'objet imprimé, le livre sous toutes ses formes. Donc du coup, pour moi, c'est toujours important. Enfin voilà, il y a toujours à la base de mes projets, soit à la base, soit qui vient s'immiscer en petit à petit, au fur et à mesure, le texte qui apparaît. Et là, du coup, je suis, pour ma résidence à la Casa Velázquez, je suis vraiment arrivée au début de l'année avec ce livre sous le bras.
C'est-à-dire
Un balcon en forêt de Julien Gracq, que finalement j'ai découvert à une période où mon travail commençait à s'intéresser à la représentation du paysage et de la nature. Et en parallèle, j'ai découvert l'œuvre de Gracq et le balcon en forêt. Et pour moi, dans cette écriture, ce vocabulaire très géographique, cette écriture très ciselée, je pense qu'il y avait aussi un rapport avec la gravure, avec la façon dont je dessinais en gravure.
Qu'est-ce que vous avez fait? Oui,
et du coup, ce que j'ai fait, oui, voilà, pour être plus précise et décrire l'installation, j'ai vraiment... je suis partie de fragments, vraiment, du livre, et de ces fragments est née une série de gravures, de gravures principalement. Et j'ai imprimé ces gravures, quelque chose de nouveau que j'ai pu expérimenter à la Casa de Velázquez, d'imprimer sur du papier Japon, des papiers très transparents, du papier de soie, papier calque. Et j'ai créé comme ça une liasse, vraiment une grosse série d'images. Et pour pouvoir mettre toutes ces images en regard, enfin, je me suis vraiment retrouvée avec une forêt, justement, de fragments. Je les ai glissés entre des plaques de plexi, et j'ai créé des sortes d'étagères où finalement il y a des bouts de texte aussi qui apparaissent, et l'œil du spectateur est amené à se promener dans ces fragments du texte de Gracq.
Et de vos gravures.
Voilà, de mes gravures aussi. Et du coup, l'œil du spectateur est amené à vraiment faire l'expérience de la lecture, enfin de ma lecture et de la lecture en général.
De Gracq.
Ouais, de Gracq.
Donc, ah oui, c'est un travail magnifique, hein, extrêmement sensible, très original, parce que moi, je n'avais jamais vu finalement une telle composition de ces transparences, de ces superpositions où en fait la matérialité du livre, parce qu'il y a même une sorte de, je sais pas si c'est une reproduction du livre lui-même, où on voit le titre, le nom de l'auteur qui est placé comme ça entre deux représentations de forêt et de sol. J'ai été très très frappée par ce travail, qui est une très grande sensibilité.
Et pourquoi avoir choisi ce texte, ce roman de Julien Gracq, Marie Bonin?
Je pense qu'il y avait quelque chose qui me parlait beaucoup et qui rejoint, je pense, la thématique de la fin des forêts, c'est de cette forêt qui est finalement un des personnages du livre et qui absorbe tout ce qu'il y a autour d'elle, les événements. Enfin, c'est dans des temps troublés que se déroule le roman, et en même temps, tout en s'imprégnant de ces temps troubles, elle sert aussi de refuge, et le personnage se retrouve vraiment à la dérive dans le paysage. C'était cette expérience-là aussi qui m'intéressait beaucoup.
Je vous propose, Marie Bonin, d'écouter une interview de Julien Gracq. C'était en 1977, au micro de Jean Dave pour France Culture. Et écoutez-le bien, parce que on a vraiment l'impression que c'est un discours d'aujourd'hui, de notre rapport à la nature. Julien Gracq, en 77.
La littérature, depuis déjà pas mal de temps, est une littérature qui, pour moi, je suis très sensible à ça, c'est une littérature où l'individu est façonné, pratiquement orienté et même fabriqué par le milieu social, par des contacts sociaux. En réalité, il y a bien entendu ce milieu social, je suis très loin de le nier, je ne suis quand même pas un solitaire complet, mais il y a aussi pour l'homme, enfin c'est pourquoi j'ai pris cette expression qui ne m'appartient pas, elle est très ancienne, seulement elle a été prise dans des sens très différents, le plante humaine. L'homme est quelqu'un qui vit dans un milieu matériel aussi. Enfin, non seulement il respire, bien entendu, mais il est tributaire de la terre sur laquelle il vit, et à mon avis, j'ai le sentiment qu'il vit dans un contact continuel, une espèce de symbiose, si vous voulez, avec la nature, avec l'air, avec le climat, le temps qu'il fait, avec la terre sur laquelle il se déplace ou qu'il habite.
C'était Julien Gracq en 1977. Qu'est-ce que ça vous inspire, Marie Bonin ?
C'est tout à fait ce que j'ai vraiment ressenti en lisant ce livre. Je connaissais déjà l'expression de plante humaine et c'est pour ça que finalement dans mon installation aussi, il y a pas d'humain. C'est vraiment aussi, enfin, il y a juste une petite présence humaine, mais sinon c'est vraiment que de la nature, parce que finalement le personnage de ce livre fait vraiment corps avec la forêt et devient la forêt et se dissout presque. Dans la forêt.
Et dans cette exposition, La fin des forêts, Cécile Debray, l'arbre est très présent dans tous ses états. Même
oui,
mort,
oui.
Même recyclé. Ouais.
Oui, puisqu'on est parti de cet événement un peu traumatique de la chute des pins de la Villa Médicis. Et certains des pensionnaires, en fait, se sont saisis des tronçons de ces arbres. Il y a des chênes, des pins. Il y a un couple de designers qui les ont transformés avec les ont peints et les ont transformés dans une sorte d'installation très très étonnante. On retrouve également ces arbres et ces tronçons dans plusieurs vidéos des uns et des autres. Oui, les arbres, les végétaux, ça se ramifie. Hein. Il y a aussi des questions d'objets de bois flotté qui traversent l'Atlantique. On peut voir comme ça plusieurs thématiques liées, en tout cas, à la flore et à la terre. Mais pour revenir à Julien Gracq, quand il parle comme ça de ces pousses humaines, où évidemment on retrouve je dirais les penseurs peut-être plus actuels de ces questions-là, comme Emmanuelle Coccia, chez chacun de ces pensionnaires. C'est très étonnant de voir comment, notamment à la Villa Médicis, ils ont eux-mêmes organisé une forme de symposium autour de la question de l'anthropocène, et combien ils sont sensibles à ces nouvelles réflexions, à la manière dont Coccia va dire que finalement il y a une forme d'appartenance, d'équilibre comme ça à un biotope, que ce soit l'homme, les animaux et la terre, et que tout ça va basculer ou se transformer. L'homme disparaîtra sans doute, mais la vie va continuer après lui.
Il y a un arbre, je m'y colle dans la petite voie de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Il y a un arbre, pigeon vole dans la petite voie de Saint-Amand. Où tournent nos rondes folles, pigeon vole, vole, vole au vent. Dessus l'arbre, oiseau vole et s'envole, voilà le printemps. Il y a nos 15 ans qui s'affolent dans la petite voie de Saint-Amand. Sous l'arbre sans parole, tu me berces amoureusement. Et dans l'herbe, jupons volent et s'envolent nos rêves d'enfant. Mais un beau jour, tête folle, loin du petit bois de Saint-Amand. Et loin du temps de l'école, je suis partie, vole, vole au vent. Bonjour l'arbre, remontez l'arbre, je reviens, j'ai le cœur content. Sous tes branches qui se penchent, je retrouve mes rêves d'enfant. Il y a un arbre, si je meurs, je veux qu'on m'y couche doucement. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Il y a un arbre, pigeon vole, mon cœur vole, pigeon vole et s'envole. Il y a un arbre, pigeon.
Aude Lavigne a rencontré quelques artistes de cette exposition, à voir donc en ce moment et jusqu'au 10 novembre à la collection Lambert à Avignon, La fin des forêts. C'est une exposition, on l'a dit, collective, qui présente les travaux d'une cinquantaine de pensionnaires des grandes villas, la Villa Médicis, la Villa Kyoto, la Villa Velázquez à Madrid. Avec Marie Bonin, on a vu comment la littérature pouvait travailler avec d'autres formes d'art comme la sculpture, la peinture, le dessin, et même le graphisme d'ailleurs.
La gravure.
Oui. Et la gravure. Mais il y a aussi des écrivains, là. Par exemple, Arnaud Rickner est présent avec ce que vous appelez, d'ailleurs vous, une douche littéraire, c'est-à-dire le fait entre deux étages, on a un petit espace où on peut s'installer et écouter le texte d'Arnaud Rickner. Comment vous appelez ça,
Cécile? Non, une douche sonore, c'est un vocabulaire un peu technique.
Une douche sonore, ouais.
Ça, c'est... Oui, non, ça sont les coulisses, mais c'est plutôt...
C'est beau, ça, une douche...
Oui, c'est vrai, on pourrait.
Mais reste des musiciens. Comment vous avez utilisé les... Parce qu'il y a des musiciens pour ces résidences.
Effectivement, ça s'appelle festival parce que il s'agit à la fois d'une exposition, mais également d'un format festival qui permet d'accueillir les arts vivants. Avec des concerts, des lectures, des représentations de danse. Mais c'est pour ça que le festival tel qu'on l'a organisé a consisté d'abord en une ouverture sur un week-end où on pouvait à la fois voir une représentation de danse, notamment beaucoup de chorégraphes du Japon qui ont été très marqués par la tradition du buto, cette danse post-Hiroshima, qui dit quelque chose sur la question de l'anthropocène, hein, qui est une danse très à la fois métaphysique et assez morbide. On a beaucoup de musiciens qui ont donné des petits concerts dans tout l'espace de la collection Lambert, et la littérature qui est très présente, qui a à la fois permis d'organiser des lectures. Donc Arnaud Rickner, on lui a aménagé une place dans l'exposition, c'est-à-dire qu'il a fait une sélection de textes qui étaient en lien avec la thématique de l'exposition, et effectivement sur un large palier d'escalier, il y a des fauteuils où on peut écouter ces textes lus par lui-même. Et un soir, dans l'auditorium, il nous a également offert une lecture d'un texte théâtral. Et enfin, dernier type de monstration, c'est la possibilité d'accueillir ceux qui travaillent avec l'écriture dans le catalogue.
On va terminer par la littérature, si vous voulez bien, Cécile Debray. Et donc, avec vous, Marie Bonin, je vous ai demandé de venir avec ce livre qui a inspiré vos travaux artistiques, vos derniers travaux artistiques exposés dans le cadre de la fin des forêts pour ce festival Viva Villa.
Ouais, y a eu tellement de fragments qui m'ont inspiré. Peut-être celui où il parle, finalement, le balcon en forêt, il appelle ça aussi le toit. Cet endroit où, en fait, il attend la guerre qui n'arrive pas et qui lui permet de déambuler dans la forêt. Je lis. Jamais encore, il n'avait autant que dans cet hiver du toit, senti sa vie battante et tiède, délivré de ses attaches, isolé de son passé et de son avenir, comme par les failles profondes qui séparent les pages d'un livre.
Marie Bonin, c'est une vieille édition de ce livre de Julien Gracq.
Du balcon en forêt, oui.
Ouais, du balcon en forêt. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre livre de chevet ?
Oui, c'est devenu mon livre de chevet. J'en ai même plusieurs exemplaires pour pouvoir le torturer un peu, la noter et le photocopier pour mon installation. Je m'en suis beaucoup servi.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr, et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Quelques visuels de cette exposition, La fin des forêts, dans le cadre du festival Viva Villa, est à retrouver à la page du réveil culturel en passant par franceculture.fr. Merci Cécile Debray d'être venue. Je rappelle que vous êtes conservatrice et surtout la commissaire de cette exposition. Et merci Marie Bonin de l'avoir accompagnée. Merci beaucoup.
Merci aussi à vous.
Bonne matinée, on se retrouve demain.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30, à suivre le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Nouveau sur France Culture, la transition se conjugue au quotidien avec Hervé Gardette.
Réchauffement climatique, épuisement des ressources, érosion de la biodiversité, nous savons tous désormais à quoi nous sommes confrontés. Mais nous ne savons pas toujours quoi faire, ni comment. Pourtant, nos modes de vie sont en train d'être bouleversés par ce basculement. Tous les jours, dans les matins de France Culture à 8h45, je vous livre mes observations, mes réflexions et je vous fais part de mes lectures dans la transition.
Nouveau sur France Culture, la transition de lundi à vendredi à 8h45 dans les matins et sur franceculture.fr. France Culture présente le présent qui déborde. Christiane Jataï reprend l'Odyssée d'Homère et s'empare de la tragédie des migrations contemporaines et de la résurgence des nationalismes. En Palestine, dans les camps de réfugiés du Liban et en Grèce, à Johannesburg ou dans la forêt amazonienne brésilienne, le présent qui déborde arme hommes et femmes des vers d'Homère pour dire leur insoutenable réalité à travers les mots du poète. Le présent qui déborde, du 1er au 17 novembre au 104 à Paris. Un partenariat France Culture.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Un homme a ouvert le feu hier devant la mosquée de Bayonne, blessant grièvement deux personnes. L'assaillant a été arrêté, c'est un octogénaire, ancien militaire. Il reconnaît les faits. Une attaque en plein débat sur le communautarisme et sur le port du voile en France. Ce mardi justement, les sénateurs vont examiner une proposition de loi pour interdire le voile en sortie scolaire. Nous y reviendrons dans un instant. Dans ce journal également, nous ferons le point sur le retrait des Kurdes dans le nord de la Syrie. La date limite fixée par la Turquie est aujourd'hui mardi. Et puis nous irons en Bolivie où les manifestations pro et anti-Morales se poursuivent sur fond de violence verbale et physique, vous l'entendrez. L'auteur présumé de l'attaque qui a eu lieu hier après-midi devant la mosquée de Bayonne a été interpellé dans la foulée à son domicile. Il s'agit d'un homme âgé de 84 ans. Ses deux victimes, deux hommes de 74 et 78 ans, sont grièvement blessés. Elles sont toujours hospitalisées ce matin. Hier soir, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ainsi que le secrétaire d'État, Laurent Nunez, se sont rendus à Bayonne. Ils se sont entretenus avec le président de l'association du culte musulman de la Côte Basque, ainsi qu'avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Dalil Boubaker. Laurent Nunez a ensuite pris la parole.
S'en prendre à un lieu de culte, s'en prendre à une mosquée, s'en prendre à des fidèles, c'est un acte odieux que nous condamnons bien évidemment avec beaucoup de fermeté. C'est un acte qui ne peut pas avoir sa place dans notre République, qui garantit la liberté de culte, la liberté de croyance. Les musulmans de France doivent pouvoir exercer leur culte en toute sécurité. Et nous devons bien évidemment garantir cette sécurité. C'est ce que je suis venu rappeler. Dire que l'État sera bien évidemment toujours à leur côté pour garantir cette sécurité dans l'exercice du culte et dire que nous serons toujours à leur côté pour rejeter toutes les haines d'où qu'elles viennent.
Cette haine, cet attentat a été commis, je vous le disais, par un octogénaire ancien militaire, ancien candidat du FN lors d'élections départementales en 2012. A-t-il été poussé par le climat du moment sur la place de l'islam et sur la possible stigmatisation des musulmans? En tout cas, ce débat entre au Sénat ce mardi. Une proposition de loi du groupe Les Républicains sera examinée pour interdire le port du voile lors des sorties scolaires pour les parents d'élèves. La droite y trouve un terrain pour défendre ses valeurs. Pierre Neveu.
C'est au printemps que la droite sénatoriale a tenté de faire modifier le code de l'éducation dans le cadre du projet de loi sur l'école de la confiance. Mais l'amendement n'a pas été soutenu par le gouvernement. Début juillet, la sénatrice du Val-d'Oise, Jacqueline Eustache-Brignon, a déposé une proposition de loi pour que l'interdiction du port des signes religieux ostensibles soit étendue au temps des sorties scolaires. Mais depuis, un élu Rassemblement national de Bourgogne-Franche-Comté a relancé la polémique. La loi est donc nécessaire pour clarifier les choses, explique Max Brisson, le sénateur des Pyrénées. Les Atlantiques, il est le rapporteur du texte.
Nous pensons aujourd'hui qu'il y a un trou dans la raquette. Les personnels de l'éducation nationale et des collectivités sont soumis à la neutralité. Les élèves aussi, ce qui fait d'ailleurs l'éducation nationale le seul service public où les usagers sont soumis à la neutralité. Les intervenants qui rentrent dans la classe sont également soumis à cette neutralité, et ceci depuis la jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Lyon. Finalement, seuls les accompagnants des sorties scolaires ne sont pas soumis à cette neutralité du point de vue des religions. Or, la sortie scolaire, c'est la classe hors des murs, c'est la classe qui se poursuit, c'est un projet pédagogique, c'est une sortie obligatoire. Et donc nous pensons qu'il faut être cohérent et qu'il faut protéger l'école. La neutralité de l'école, c'est un bien précieux, notre République, elle doit être totale.
Une proposition de loi qui risque d'alimenter la polémique alors que le Premier ministre a rappelé son opposition à une nouvelle loi sur les accompagnateurs scolaires, mais la question divise au sein de la majorité. En attendant un grand discours, le chef de l'État demande au CFCM d'avoir une parole forte sur la place du voile des femmes et l'école républicaine. Le président qui rappelle le devoir de neutralité dans les services publics.
Un débat donc cet après-midi au Sénat. À l'Assemblée nationale ce mardi, en revanche, les députés vont, eux, se pencher sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Un vote en première lecture est prévu cet après-midi. Sont notamment inscrits dans ce texte l'expérimentation de l'usage médical du cannabis, l'obligation de stocker des médicaments pour prévenir d'éventuelles pénuries ou encore la réindexation sur l'inflation des retraites inférieures à 2000 euros par mois. Des peines alourdies pour ceux qui poussent les femmes au suicide. Elles étaient l'an dernier 217. Des peines alourdies donc, voici l'une des propositions faites par un groupe d'experts à l'occasion du Grenelle des violences faites aux femmes. Ce Grenelle se conclut aujourd'hui. 65 propositions au total ont été retenues par le gouvernement. La formation des forces de l'ordre est également soulignée. Pour la secrétaire d'État Marlène Schiappa, aucune victime ne doit repartir d'un commissariat sans connaître ses droits et sans savoir où trouver du soutien. Les Kurdes de Syrie avaient jusqu'à aujourd'hui, mardi, pour retirer leurs armes lourdes de la frontière avec la Turquie, au nord de la Syrie. Cela avait été acté lors d'un accord entre Moscou et Ankara, en pleine offensive turque contre les Kurdes. Et ces derniers se sont donc retirés au Marwaman.
C'est la mort dans l'âme que les forces kurdes se sont retirées de la frontière avec la Turquie. Un retrait d'une profondeur de 32 kilomètres, comme le prévoit l'accord conclu il y a tout juste une semaine entre Ankara et Moscou. Des témoins ont vu ces derniers jours s'étirer de longues files de blindés et autres véhicules militaires. Tout ce que les combattants kurdes comptent d'armes lourdes a été évacué, un armement fourni en grande partie par les États-Unis pour combattre Daesh. Mais lâché par Donald Trump, ces Kurdes n'ont pas eu d'autre choix que de se plier à cet accord qui met fin à leur autonomie dans cette région au profit du régime de Bachar el-Assad dont les soldats ont fait leur grand retour dans le nord-est de la Syrie. C'est eux qui assureront le rôle de garde-frontière. Autre volet du traité, à partir d'aujourd'hui, des patrouilles conjointes des forces turques et russes seront menées pour s'assurer que les combattants kurdes n'y sont plus. Dans le cas contraire, Ankara reprendra son offensive.
Le corps du chef de Daesh a été immergé en mer hier, c'est ce qu'affirme le Pentagone. Une procédure qui rappelle le sort réservé à Oussama Ben Laden, tué par un raid américain au Pakistan en 2011. Et cela permet en fait d'éviter qu'une tombe ne devienne un lieu de pèlerinage. Abu Bakr al-Baghdadi s'était fait exploser ce week-end en Syrie pendant un raid américain. Pendant ce temps, hier en Irak, à Bagdad, des milliers de personnes ont défilé malgré le couvre-feu instauré par le gouvernement. Hier, des étudiants, des écoliers ont envahi les rues de la capitale ainsi que de nombreuses autres villes du sud du pays. Tous réclament la chute du régime irakien qu'ils jugent corrompu. Manifestation monstre également en Bolivie. Après l'annonce de la victoire d'Evo Morales dès le premier tour de la présidentielle, les Boliviens pro et anti-gouvernement s'affrontent dans les grandes villes du pays. Face aux partisans de Morales, l'opposition dénonce une fraude électorale et une grève générale dure depuis maintenant plusieurs jours. Voici le reportage de notre correspondante sur place, Alice Campagnol.
C'est avec de la dynamite que plusieurs centaines de mineurs ont exprimé leur soutien à Evo Morales hier à La Paz. Ils sont venus débloquer les rues de la ville barrées par des citoyens de l'opposition qui se mobilisent contre l'élection d'Evo Morales.
Nous, le peuple, nous sommes en colère parce qu'on a piétiné notre vote et notre opinion. Et franchement, il faut être sans gêne pour croire que nous allions accepter sans rien dire.
L'ambiance était tendue, insultes, menaces et parfois même violences entre d'un côté les opposants à Evo Morales et de l'autre ses partisans.
Moi je crois que la droite ne veut pas accepter sa défaite. Tout le processus de vote a été transparent. Ce qu'ils veulent c'est prendre le pouvoir par la force en disant qu'ils sont les plus nombreux. Mais c'est faux, nous sommes la majorité et nous allons défendre notre vote.
Et Evo Morales lui-même l'a dit, si les blocages continuent, ses partisans encercleront les zones urbaines et empêcheront l'approvisionnement des villes en nourriture. La journée s'est terminée par deux grands rassemblements de plusieurs milliers de personnes, chaque camp cherchant à montrer ses forces. Le MAS, le parti de gouvernement, fêtait sa victoire. Quant à l'opposition, elle a appelé à rester mobilisée.
C'était Alice Campagnol en Bolivie pour France Culture. Notons enfin que Joshua Wong, figure du mouvement pro-démocratie à Hong Kong, a annoncé cette nuit que sa candidature aux prochaines élections locales avait été invalidée. L'ancienne colonie britannique qui vit, je vous le rappelle, sa pire crise politique depuis sa rétrocession à Pékin en 1997. Revenons maintenant en France pour quelques mots de la météo pour ce mardi. Et le temps sera souvent très nuageux sur l'ensemble du pays en France métropolitaine. Avec des pluies et des vents soutenus sur les littoraux. Comptez ce matin 7 degrés à Besançon, 10 à Paris, 11 degrés à Nantes et à Lille, 16 à Lyon, 18 degrés ce matin à Bordeaux et 21 à Marseille. Il est 6h40. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Nous vous retrouvons pour le journal des idées.
Oui.
Vous nous emmenez ce matin, Jacques, notamment en Irak, où la jeunesse rejoint le mouvement de contestation. L'ampleur et la multiplication des mobilisations sociales dans le monde, Jacques, suscitent analyses et commentaires.
Et oui, et nous sommes raccord, Clara, vous avez remarqué.
On a parlé de la Bolivie à l'instant, Jacques.
Absolument. Alors en Irak, des milliers d'étudiants se sont rassemblés lundi dans plusieurs villes du pays, rapporte Le Monde, qui rappelle le bilan de plus de 200 personnes tuées et plus de 8000 blessées. Les manifestants, les fonctionnaires en grève et les syndicats dénoncent la corruption du régime responsable de la dilapidation de l'équivalent du double du PIB de l'Irak, pourtant riche en pétrole. Ils réclament la dissolution du Parlement et une nouvelle constitution. En 16 ans, disent-ils, le complexe système de répartition des postes en fonction des confessions et des ethnies n'a fait que renforcer le clientélisme d'une classe politique inchangée sans laisser d'horizon ouvert aux jeunes dont 1 sur 4 est au chômage. Comme un air de déjà-vu, la mobilisation gagne en ampleur sur l'emblématique place Tahrir à Bagdad qui s'est couverte de tentes, de stands de distribution de nourriture et de protection contre les grenades lacrymogènes. Dans les pages idées du quotidien, Emmanuel Barrosé et Yvan Sansolieu évoquent à propos de la violente déflagration sociale au Chili, la convergence planétaire d'une pluralité des sentiments d'injustice. Certains de ces mouvements ont une causalité économique immédiate, comme le refus de nouvelles taxes ou la hausse des prix. France, Liban, Équateur, Chili. D'autres ont des causalités politiques autour de revendications démocratiques, comme au Venezuela, Algérie, Soudan, Égypte, Bolivie. Mais souvent, les deux aspects se rejoignent, observent les sociologues, car l'autoritarisme et la concentration des richesses sont des phénomènes intriqués. C'est le cas au Chili, notamment, où l'économie rentière monopolistique et le capitalisme familial accentuent les tendances autoritaires. Au Liban, le politiste Ziad Majed évoque un air de mai 68, tant les revendications des manifestants vont au-delà du renversement des élites politiques et visent aussi le racisme, le sexisme et les discriminations. Il souligne que la mobilisation s'est étendue à l'ensemble du pays, jusqu'à des localités du Liban Sud, fief du Hezbollah chiite, considéré comme l'acteur le plus puissant du pays et le plus rassembleur de sa communauté. Et que cette nouvelle dynamique citoyenne crée un précédent dans la culture politique du pays. Là aussi, la mobilisation se traduit par l'occupation des espaces publics et notamment les places des grandes et moyennes villes du pays. Dans la dernière livraison de la revue du Crieur, l'architecte Eyal Wezman et son équipe analysent les liens entre les ronds-points et les soulèvements populaires. Cette disposition circulaire paraît donner de la force aux collectifs politiques en construction. Dans cette approche spatiale des soulèvements, d'un point de vue historique, il souligne une dynamique d'imitation et de contagion. L'avantage du rond-point, c'est qu'on peut faire le siège d'une ville entière en exerçant une pression sur un unique point clé à l'intérieur d'une infrastructure en réseau. Par ailleurs, les places affichent souvent une puissance symbolique due aux monuments représentant le régime. Le rond-point exercerait quant à lui un attrait comparable du fait de sa conception, l'autorégulation des usagers. Son développement au XXe siècle coïncide en effet avec l'essor de la dérégulation et de l'autorégulation comme principe dominant des théories politiques et économiques libérales. Enfin, par rapport au modèle du panoptique décrit par Foucault, il renverse les rôles, les citoyens n'attendent plus les surveillés, mais ceux qui scrutent le régime et voient venir sa police. Pour Eyal Wezman, Osman, il faut ajouter au dispositif celui de la table ronde polonaise autour de laquelle se déroulèrent les négociations entre Solidarnosc et le gouvernement Jaruzelski. Le site de la revue Ballast publie un grand entretien avec Ludger Schwart, auteur d'une philosophie de l'architecture à la découverte. Comment l'architecture donne-t-elle forme aux événements ? Réponse, une révolution connaît deux types de dramaturgie, à savoir l'assaut sur le palais du souverain et le renversement de sa statue sur la place de la ville. Ainsi, à Paris, en 1792, les masses révolutionnaires arrachent les statues de Louis XIV et Louis XV sur la place des Victoires, la place Vendôme et la place Louis XV, rebaptisées place de la Révolution et aujourd'hui place de la Concorde. Or, de nombreuses places, comme la place Alexander à Berlin, la place Tahrir au Caire, la place de l'Indépendance à Tunis ou la place Maïdan à Kiev, sont issues de ces architectures parisiennes. Le philosophe dit avoir conçu son livre comme une réponse à Foucault, qui a beaucoup parlé de l'architecture en tant que technologie de pouvoir, mais pas comme un art de la construction des possibles. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, le Brexit vu par les services de renseignement.
Oui, le Royaume-Uni a formé l'aristocratie de l'espionnage, disaient Philippe Vasset et Pierre Gastineau cet été dans la série Conversations secrètes sur France Culture. Que ce soit pendant la Seconde Guerre mondiale ou la Guerre froide, l'excellence des Britanniques dans ce domaine leur a permis de conserver leur place dans la communauté internationale quand leur puissance économique et militaire, elle, ne cessait de décliner. Aujourd'hui encore, le MI5, service de renseignement intérieur, est reconnu pour son expertise en matière de lutte contre le terrorisme. Alors, des services de renseignement européens ou britanniques, lesquels auraient le plus à perdre ou à gagner de l'autonomie retrouvée des premiers ? Le nouveau report de la date de sortie accepté hier par l'Union européenne au 31 janvier prochain ne sera pas de trop pour fixer un nouveau cadre pour les relations entre services. Bonjour Pierre Bertrand.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé au Centre d'études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes de l'Université Grenoble-Alpes. Vous êtes aussi un membre de la communauté, alors on le dit comme ça, des experts Europol, l'agence européenne de coopération entre les polices criminelles. Pierre Berthelet, quand le Brexit sera acté, s'il l'est, il faut toujours évidemment mettre les réserves de rigueur, est-ce que le Royaume-Uni passera ou passerait de pays membre à pays tiers ? Qu'est-ce que ça implique en matière de renseignement ?
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, en matière de renseignement, il faut vraiment distinguer le renseignement extérieur et le renseignement intérieur. En clair, l'aspect DGSE ou bien alors, au contraire, l'aspect DGSI, l'aspect police. Il faut savoir pourquoi, parce que les choses sont très différentes. En matière de DGSE, donc en matière de renseignement extérieur, le renseignement fonctionne plutôt sur un mode intergouvernemental. Donc en clair, on est plutôt dans une logique soit bilatérale, soit une logique de club. Or finalement, le Brexit aurait un impact assez limité, puisque on passerait d'un système communautaire, d'un système intégré à un système international. Or, le système de renseignement extérieur fonctionne déjà sur une logique de système international. Donc en gros, l'évolution serait globalement assez neutre. Par contre, là où il y aurait un véritable changement, c'est en matière de renseignement intérieur. En matière de renseignement intérieur, là, pour le coup, les polices, elles travaillent dans un système beaucoup plus intégré. En l'occurrence, l'exemple le plus courant, c'est Europol. Et les Britanniques sont très actifs dans Europol. Le véritable danger d'un Brexit sans accord, visiblement, on s'acheminerait pas plutôt vers ça, mais vers autre chose. Le Brexit sans accord ferait qu'à un moment donné, on aurait, le risque serait vraiment qu'on coupe tout d'un coup, l'accès des Britanniques à Europol.
Alors, Europol, agence Pol comme police, hein, elle a signé des accords spécifiques avec des pays qui ne sont ni membres ni tiers, en l'occurrence comme la Russie, la Turquie, l'Ukraine. Est-ce que ce sont des accords forcément, oui, à minima, le Royaume-Uni signant un tel accord serait dans un dispositif à minima ?
Alors, je vais préciser un petit peu ma pensée là-dessus, parce que c'est important. Concernant les accords avec Europol, là je parlais du Brexit sans accord. Donc tout d'un coup, on serait vraiment dans une sorte de trou noir qui est craint, mais en fait qui a été craint et qui est craint toujours par le monde de l'économie, mais également par le monde de la sécurité. Maintenant, un Brexit avec accord, c'est un Brexit qui est ordonné. Or, ce qui est prévu justement dans l'avenir, c'est d'abord il y aura une période transitoire, premièrement. Et puis à l'issue de cette période transitoire qui est globalement jusqu'en 2021, là par contre, pour le coup, il y aura la négociation d'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc là, effectivement, dans ce cadre-là, comme d'autres pays tiers, ils ont accès aux bases de données Europol et il y a un échange d'informations. Mais dans ces cas-là, tout se fera de manière structurée.
Alors, les choses pourraient se faire donc de manière structurée. Deux sujets posent manifestement problème néanmoins. Et en France, la délégation parlementaire du renseignement l'a détaillé dans un rapport récent. Alors, elle dit, cette délégation, l'accès au système d'information Schengen. D'abord, ces systèmes qui permettent d'alerter sur les déplacements des passagers qui font l'objet d'un signalement. Voilà, donc déjà, on apprend donc que le Royaume-Uni, pour ceux qui ne le savaient pas, avait accès à ce système d'information alors qu'il n'est pas dans l'espace Schengen. Est-ce qu'il l'utilisait beaucoup?
Alors, effectivement, concernant ce système d'information Schengen, c'est intéressant parce que dans Schengen, donc c'est l'espace de libre circulation, et nous savons tous que le Royaume-Uni n'en fait pas partie. Hein. Juste simplement, quand on franchit les frontières pour aller au Royaume-Uni, on passe les frontières extérieures Schengen. Mais d'un autre côté, le Royaume-Uni a tout de suite voulu avoir accès au dispositif sécuritaire de Schengen. Schengen, c'est souvent un peu défini comme un espace de libre circulation où chacun fait ce qu'il veut, où règne l'insécurité. C'est pas vrai du tout. Et Schengen fait partie, ce système fait partie des mesures compensatoires. Alors maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que le Royaume-Uni fait beaucoup partie de, en tout cas, œuvre activement au système d'information Schengen. Non seulement ça veut dire qu'il verse des données, mais en plus, il le consulte. Et juste pour donner une image à nos auditeurs, faut bien voir, c'est qu'en fait, le Royaume-Uni est assez bon élève en matière de sécurité et en matière de renseignement policier en particulier, parce que, et d'ailleurs, c'était assez paradoxal, le Royaume-Uni, pendant à peu près entre les années 2000 et 2015, au moment de la construction de la coopération policière, s'est montré un fervent défenseur de cette Europe de la police. Et alors que le mouvement était plutôt, on le savait, vers le mouvement plutôt eurosceptique, là c'était plutôt l'inverse. Donc maintenant, pour parler du système d'information Schengen, en fait, le Royaume-Uni a demandé, le Royaume-Uni avait un système d'opting opt-out. En gros, en clair, déjà même avant le Brexit, le Royaume-Uni avait négocié la possibilité de pouvoir entrer ou sortir dans ce qu'il voulait concernant les matières policières et judiciaires.
Donc il était déjà très autonome.
Le Royaume-Uni avait accepté, ouais. Il avait accepté d'être raccordé au système d'information Schengen. Donc là, après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, après le Brexit, le Royaume-Uni, il devrait y avoir la négociation d'un accord. Et à l'issue de la période provisoire, on peut tout à fait imaginer qu'il y a un accord. Dans ces cas-là, le Royaume-Uni pourra continuer toujours à utiliser ce système d'information.
Pierre Berthelet, pour donner un exemple concret de cas où cette coopération a été fructueuse et où les données du système d'information Schengen ont permis de résoudre une affaire, c'est quand la police britannique et le MI5 ont, avec ces données, retrouvé les officiers russes qui avaient tenté d'assassiner Sergei Skripal, par exemple, ancien espion russe en 2018 à Salisbury. Autre sujet qui pose problème d'après le Parlement ici en France, c'est la participation du Royaume-Uni au mandat d'arrêt européen qui n'est pas ouvert aux pays tiers. Là encore, c'est un mécanisme qui a été beaucoup utilisé. Dans quel cas précis?
Alors, juste concernant le mandat d'arrêt européen, le mandat d'arrêt européen, il est utilisé maintenant de manière extrêmement courante parce qu'en fait, on n'a plus le système de l'extradition. Et ce qu'il faut bien voir, et vous l'avez bien dit, c'est que ce mandat européen, il concerne uniquement les pays de l'Union européenne. La difficulté concernant le Royaume-Uni, c'est de savoir si oui ou non il pourra participer à ce dispositif. Déjà, l'avocat général de la Cour de justice avait bien dit que, en gros, tant qu'il n'y avait pas la sortie du Royaume-Uni, ce système fonctionnerait. Donc, il n'était pas possible pour un État membre de soulever cette situation pour dire bah, dorénavant maintenant, moi je refuse de livrer des personnes au Royaume-Uni. Inversement, maintenant, ce qui va se passer, c'est que une fois que le Royaume-Uni sera sorti et après cette fameuse période provisoire, en fait, la déclaration politique qui accompagne l'accord de sortie prévoit bien la négociation d'un accord pour pouvoir étendre ce mandat d'air européen également au Royaume-Uni. Et dans quelles conditions? Parce qu'en fait, en réalité, il faut bien savoir, c'est que notamment, est-ce que le Royaume-Uni pourra extrader, entre guillemets, extrader, hein, ses nationaux. Tout cela sera prévu dans ce fameux accord qui sera signé après l'accord de sortie. Enfin, en tout cas, après la ratification de l'accord de sortie.
Et notamment parce que certains pays comme l'Allemagne et l'Italie ne permettent l'extradition de leurs ressortissants que vers d'autres pays de l'Union européenne. Donc peut-être, voilà, soit cet accord va régler cette question, soit eux devront changer leur constitution pour continuer à pouvoir extrader vers le Royaume-Uni. En tout cas, pour l'instant, tout ça est encore flou. Pierre Berthelet, une fois seul, entre guillemets, ou esselé, le Royaume-Uni pourra-t-il toujours garantir le même niveau de protection des données? C'est un autre sujet d'inquiétude.
Alors, là encore, c'est toujours cet accord, la déclaration politique
qui accompagne
l'accord de sortie. Exactement. Et là, concernant, mais vous avez raison, hein, c'est des bonnes questions, l'accord de la protection des données, il faut comprendre, c'est que l'Union européenne a négocié avec ses partenaires des accords de transfert des données. L'idée, c'est qu'en fait, le niveau de protection, on est à un niveau, ce qu'on appelle un niveau de protection adéquat des données. Et là encore, il est prévu dans la déclaration politique qui accompagne l'accord de sortie, la signature d'un accord pour garantir ce niveau adéquat. Vous voyez bien, en fait, une fois que le Royaume-Uni sera sorti, il y aura toute une série d'accords internationaux qui devront être signés. Et on voit bien que finalement, je dirais, on est au début de nouvelles aventures. Ce n'est vraiment que le début. Et pour l'instant, on se focalise essentiellement sur la sortie et plus exactement sur la ratification par le Parlement britannique de l'accord de sortie, mais on voit bien qu'en réalité tout va se jouer un petit peu plus tard après la négociation de ces accords internationaux sur le nouveau paysage en matière de police et de justice et de renseignement.
Très bien, mais on est aussi au début de nouvelles aventures sur le plan politique et la question du Brexit stricto sensu, puisque Boris Johnson aujourd'hui retente d'imposer des élections le 12 décembre après l'échec d'hier, donc un nouveau vote aujourd'hui à la Chambre des communes. Margot Delpierre y reviendra dans quelques minutes dans son journal et Camille Magnard dans sa revue de presse internationale à 7h35. Merci beaucoup Pierre Berthelet d'avoir été avec nous ce matin. Merci et bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Recueilli, élevé par des loups dans la jungle indienne, Mowgli sur France Culture, dans le feuilleton, dans la voix de Jacques Gamblin.
Il entendit la plainte dure et chantante d'un tigre qui n'a rien pris et auquel il importe peu que toute la jungle le sache. C'était Shere Khan.
Ode à la différence, une profonde réflexion sur l'humanité qui a l'inventivité, l'humour, la force de s'adresser à tous. Les aventures de Mowgli, de Joseph Rudyard Kipling, le feuilleton, de lundi à vendredi à 20h30 et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57. Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Le thème de votre humeur du jour ce matin, cette question, quand un attentat est-il un attentat?
Oui, voyez ce que je veux dire. Quand faut-il nommer une attaque dirigée de manière évidente contre des personnes, un attentat? La question se pose au lendemain de l'attaque de la mosquée de Bayonne, que pratiquement personne n'a qualifié d'attentat, sauf Marine Le Pen. Alors qu'est-ce qu'un attentat? Si on regarde dans le dictionnaire, il s'agit d'une action destinée à nuire, autrement dit, à attenter au bien ou à la vie d'autrui dans un contexte politique ou terroriste. Donc, pour savoir ce qu'est un attentat, il faut déjà définir ce qu'est un contexte terroriste ou une justification politique. Alors le terrorisme, lui, il est défini comme l'emploi de la terreur à des fins politiques, religieuses ou idéologiques. On trouve apparemment plus de 109 définitions du terrorisme. Ceci posé, il apparaît évident que le geste perpétré à Bayonne avait pour but de propager la terreur. Cet homme s'en est pris à des personnes qu'il ne connaissait pas en raison de leur religion. Et pourtant, les journaux ce matin n'emploient pas le mot d'attentat et encore moins celui de terrorisme. Libération parle ainsi d'une attaque. Des coups de feu éclatent devant la mosquée de Bayonne, blessant grièvement deux personnes, alors même qu'on a, semble-t-il, retrouvé des écrits politiques de cet homme. Alors j'ai cité Libé, mais j'aurais pu citer Le Figaro qui parle d'une attaque contre la mosquée de Bayonne. Il s'est passé à peu près la même chose à la synagogue de Pittsburgh. En octobre 2018, un homme avait alors tué 11 fidèles et pourtant le terme d'attentat a été à peine utilisé seulement 2 ou 3 jours après pour qualifier cet acte. Pourtant, là aussi, les motivations politiques et racistes de l'acte ne faisaient aucun doute. D'où vient alors cette prudence lexicale dans des contextes où il n'y a pourtant guère d'ambiguïté, l'acte valant motivation, puisqu'on ne vise pas une mosquée en pensant s'en prendre à un autre lieu public. On peut être terroriste sans organisation terroriste, commettre un tel acte sans avoir tout son sens commun dans ces conditions. Pourquoi ne pas évoquer l'attentat ? Jadis, au Moyen-Âge, on avait peur de prononcer le mot peste. Pendant les épidémies de peste, a-t-on abandonné ces superstitions ? Il paraît que les mots tuent. Ce n'est pas une raison pour ne pas utiliser le bon mot qui explique pourquoi on a tué.